Notre pasteur Blaise a déjà bien exprimé ce que j'avais aussi en tête d'apporter à notre Seigneur en prière avant de commencer ce message. Vous savez qu'un message, ce n'est pas simplement une étude de texte, c'est quelque chose qui s'apporte aussi dans un contexte. Et vous savez que le contexte de notre Église aujourd'hui n'est pas forcément le plus simple, mais nous avons néanmoins confiance dans le fait que nous sommes une Église qui appartient au Seigneur et que nous pouvons nous appuyer dessus. Mais du coup, ce n'est pas forcément évident pour moi d'être celui qui vous apporte le message ce matin dans ce contexte, mais que je voulais simplement prier que le Seigneur puisse enlever tout obstacle qui puisse être entre nous et le message qu'il a pour chacun d'entre nous ce matin. Parce que ce message, ce n'est en rien le mien, c'est simplement une parole que le Seigneur aura pour chacun d'entre nous, un petit paragraphe que chacun pourra retenir et qu'il puisse agir dans nos cœurs au travers de ce qui va être dit ce matin. Alors, d'une manière pratique, je prends la suite du message qui a été apporté par Christophe le dimanche dernier sur la grâce, donc dans Tite au chapitre 2, à partir du verset 11. Bon, moi, je vais prendre la suite, notamment à partir du milieu du verset 12 et jusqu'au verset 14, mais je vais relire quand même à partir du verset 11 pour qu'on reste dans le contexte de ce que ce texte veut nous apprendre ce matin. Donc dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11, je vais lire avec vous. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Vous avez pu, vous le voyez, l'apôtre Paul aborde dans ce passage des sujets qui sont vraiment extrêmement fondamentaux et importants pour nous dans le cadre de notre vie chrétienne au quotidien. Ce qui est bien, c'est que ce texte est dit quand même de façon assez simple. L'apôtre Paul expose vraiment ses idées d'une manière simple et efficace qui est compréhensible pour tout le monde. Il y a un but derrière. Le but, c'est que chacun puisse vraiment comprendre, c'est que chacun puisse vraiment être convaincu de ce qui est dit par l'apôtre Paul dans ce passage. Et c'est un peu aussi à nous qui parle ce matin dans ce bâtiment, dans cette église, à travers les siècles. Il s'adresse aussi à nous, quelque part, dans le but de provoquer une prise de conscience pour chacun d'entre nous, moi le premier, par rapport à notre vision des choses qui est parfois un peu étroite, un peu étriquée, un peu trop focalisée sur nous-mêmes. Focalisé sur notre vie au présent, focalisé sur nos proches, focalisé sur notre église locale, ici ce matin, focalisé sur notre monde actuel. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes et femmes, c'est naturel pour nous de nous préoccuper de notre vie au présent. Nous nous préoccupons de nos problèmes du quotidien, avec un grand point d'interrogation quand il s'agit de penser au futur, que nous ne maîtrisons absolument pas. Mais nous savons que la perspective de Dieu est autre. La perspective de Dieu est différente de la nôtre. Elle est plus large, elle est plus grande, elle est plus profonde, elle est plus sage que tout ce que nous pouvons imaginer. Pour Dieu qui a plusieurs dimensions dans le temps et dans l'espace, lui, il a une parfaite maîtrise des événements. Pour lui, les événements peuvent être même connus et planifiés des milliers d'années à l'avance. Si nous ne maîtrisons pas grand-chose dans notre nature humaine qui est limitée, nous avons quand même un recours qui nous redonne confiance. Et il est fondé sur la conviction que notre Dieu, lui, Il a toute cette maîtrise que nous n'avons pas. Il a la maîtrise sur le temps et sur les événements, sans aucune limite. Et c'est vrai que dans cette conviction, ça change complètement la vie de nous en tant que chrétiens. Ça change aussi, et ça devrait changer notre regard sur les choses qui arrivent au présent ou dans le passé. Et plus important encore, la prise de conscience que notre Dieu maîtrise tout, que sa volonté est souveraine sur toute chose, ça nous permet de regarder l'avenir avec confiance, avec une espérance. Non pas parce que nous savons par avance ce qui va arriver, non pas parce que nous savons comment les choses vont évoluer, mais parce que notre Dieu règne. Dans cette optique-là, que faire sinon nous remettre entre les mains de Dieu, remettre sa vie, notre vie, entre ses mains, lui faire confiance pour mener à bien notre présent et notre futur. En fait, finalement, notre combat à nous, il se situe là. Gagner en sagesse, c'est privilégier la crainte de Dieu dans notre vie, avoir le désir de lui être agréable, dévoué, obéissant. Ne nous y trompons pas, comme on peut le voir dans certains contextes. Il ne s'agit pas d'un esclavage qui nous opprime, qui nous comprime, qui nous dévalorise, qui nous exploite, qui nous détruit rapidement ou à petit feu. Bien au contraire, notre Seigneur nous rassure que son joug est léger. Et c'est écrit dans sa parole dans Matthieu 11, au verset 29. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Alors pourquoi attendre encore ? Privilégier la crainte de Dieu dans notre vie, lui donner la première place, avoir le désir de lui être agréable. C'est de cette manière que, comme dans le verset 12 que nous venons de lire dans Tite 2, nous pourrons mener dans le temps présent, dès aujourd'hui, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Vous allez me dire que c'est facile à dire dans une prédication, mener une vie juste, équilibrée et pleine de respect pour Dieu. Mais ce n'est pas si facile que ça à vivre au quotidien. Certains jours même, et je pense que vous me rejoindrez là-dedans, on a l'impression d'en être tellement loin de la cible. Et quand ce n'est pas nous-mêmes, on regarde notre voisin avec cette pensée que, oh là là, ben lui alors, qu'est-ce qu'il est loin ? Qu'est-ce qu'il ne vit pas cette vie qu'il devrait vivre ? Est-ce qu'on n'a pas souvent ce jugement sur les personnes qui nous entourent ? Celui qui n'a jamais eu ce type de pensée, qu'il lève la main. Mais il y a une très bonne nouvelle. C'est que cet objectif de mener une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, ce n'est pas que notre objectif à nous. C'est aussi, et c'est ça qui, je pense, est le plus important, cet objectif, c'est en tant que chrétien, c'est d'abord celui que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et vous conviendrez qu'avec Dieu, nos chances de réussite ne sont pas du tout les mêmes. Notre perspective ne sera pas du tout la même. Parce que Dieu nous accompagne lui-même en nous faisant don de sa grâce. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans le message que Christophe nous a apporté le dimanche dernier. La grâce de Dieu qui nous est donnée. Et ce message aussi nous appelait à nous poser la question, mais comment finalement nous recevons cette grâce ? Est-ce qu'en recevant cette grâce finalement, est-ce que nous aussi nous faisons grâce ? Mais ça, c'était le message de dimanche dernier. Mais les effets de la grâce dans notre vie, je voudrais quand même le rappeler, comme le dit le texte au verset 12, elle nous éduque, nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Par la grâce, nous sommes sauvés. parce que Jésus-Christ a vécu une vie parfaite et que seul son sacrifice peut nous sauver. Seul son sacrifice payé permet de payer le prix pour nos péchés, à notre place. Mais nous ne sommes pas que sauvés par la grâce. Par la grâce, nous sommes aussi transformés de jour en jour, de victoire en victoire, pour tendre vers la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça nous donne une autre perspective par rapport à cette volonté que nous voulons de vivre une vie équilibrée et respectueuse de notre Dieu. Et donc finalement, face à nos imperfections dont je parlais tout à l'heure, quand nous nous rendons compte que nous sommes loin de la cible et que nous avons l'impression de ne pas y arriver, finalement, il y a deux façons diamétralement opposées de voir les choses. Soit nous nous disions que, ben voilà, nous allons sombrer dans le découragement parce que nous n'y arriverons jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Ce n'est pas possible. La cible est trop loin. Soit nous prenons l'autre optique, nous réalisons que notre Seigneur nous aime déjà aujourd'hui, tel que nous sommes. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Il nous aime déjà aujourd'hui, tel que nous sommes. Et mieux que ça, à cet instant, le Seigneur nous aime alors que nous n'avons aucun mérite pour qu'il nous aime. Et ça, déjà, ça aide à faire descendre la pression que nous nous mettons nous-mêmes. Et si nous choisissons de répondre à son appel, si nous choisissons de lui appartenir, sa grâce nous éduque et elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. La grâce nous transforme de jour en jour sur le chemin de la sanctification. Et ça, c'est vraiment le moyen, plutôt que d'être complètement centré sur nous-mêmes, de regarder à Dieu pour retrouver confiance dans notre vie de chaque jour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le chrétien, parce que c'est une grâce que nous avons. C'est quelque chose que nous avons que personne d'autre n'a. Nous devons vraiment nous appuyer dessus. Tout le mérite de notre salut et de notre transformation revient à Jésus-Christ. Et aucun d'entre nous ne peut s'attribuer une quelconque gloire pour cela. Néanmoins, tels que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons déjà mesurer les effets de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Et ça nous encourage à continuer le combat que nous menons chaque jour contre notre nature pécheresse. Mais il y a quand même un mais. C'est que si nous ne prenons pas la décision d'appartenir totalement à Jésus-Christ, si nous n'avons aucune soif de lui obéir et de faire toute sa volonté, alors forcément, nous ne pourrons pas profiter des effets de sa grâce. Et en tout premier lieu, nous ne pourrons pas profiter du pardon de nos péchés sans lequel nous ne pourrions pas être sauvés. Même si tout est déjà accompli par Jésus-Christ en vue de notre salut, nous avons quand même la responsabilité personnelle d'accepter ce salut ou de ne pas l'accepter. Nous avons la responsabilité de vouloir suivre Jésus-Christ et de nous conformer à sa volonté. Et ainsi, nous pourrons laisser libre cours à sa grâce pour agir en nous. Et pour ceux qui acceptent de donner leur vie à Christ, nous pouvons dès à présent, et c'est ça qui est formidable, dès aujourd'hui, vivre dans la paix et le repos de notre Seigneur. Et comme nous dit ce passage, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Frères et sœurs en Christ, cette paix et ce repos de notre âme, c'est un don gratuit de Dieu. Mais il nous faut vraiment avoir le désir d'aller le chercher, de se l'approprier tous les jours. Et je vais prendre quelques exemples et je vais me prendre en premier comme exemple, même je dirais comme contre-exemple. Parce que si comme moi, comme je l'ai vécu l'année dernière, si vous vous levez tous les jours avec un grand stress qui vous ronge et qui ne vous quitte jamais, à cause de la pression que vous avez sur votre lieu de travail, ou à cause de l'inquiétude pour vous, pour vos proches. C'est vrai que dans notre vie actuelle, on a tellement de choses qui nous stressent au quotidien. Si nous vivons au quotidien avec une colère qui ne passe pas, qui demeure, avec une frustration qui ne nous lâche pas, avec une tristesse qui demeure en nous en permanence, avec tout autre sentiment qui crée une barrière durable entre nous et les effets de la grâce de notre Seigneur, alors nous pouvons vraiment considérer que c'est une forme de désobéissance. C'est une forme de désobéissance à la volonté de notre Dieu. Pourquoi ? Parce que ça nous empêche de vivre la vie que notre Seigneur voudrait pour nous chaque jour. Ça nous empêche de vivre la vie que notre Seigneur voudrait pour ses enfants. Si nous avons l'espérance du retour de Jésus-Christ glorieux, alors il n'y a pas de stress, pas de colère, pas de frustration, pas de tristesse qui ne saurait trouver un apaisement dans le temps. Avec le secours du Saint-Esprit. Et cela nous permet de nous laisser tendre vers la paix et le repos du Seigneur. N'hésitons pas à faire appel à Dieu dans nos prières, avec la conviction que sa réponse sera positive. Lui qui est l'auteur de toutes ses promesses. C'est lui qui fait ses promesses et notre Dieu est parfait. S'il fait ses promesses, il va les tenir. Il va les tenir. Notre tristesse et notre frustration peut aussi venir du fait qu'il existe un péché qui reste présent dans notre vie à chaque instant, malgré toutes nos luttes pour nous en débarrasser. Pour nous encourager avec puissance, l'apôtre Paul n'oublie pas de préciser au verset 13 et 14 que nous venons de lire que Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé à notre place afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes. Et cette délivrance ne consiste pas simplement à effacer nos fautes qui sont passées, mais aussi à nous aider à briser les chaînes des liens qui nous lient encore au péché aujourd'hui, des péchés que nous commettons encore de manière récurrente, mais que nous voulons dénoncer fermement et sincèrement. Ainsi, nous aurons la possibilité et l'opportunité de vivre dès aujourd'hui, dans la paix et dans le repos, par la grâce de notre Dieu. Au verset 13, « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » C'est sur cette espérance de la venue de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ que repose notre foi. J'espère que c'est là-dessus que repose votre foi. Nous savons que Jésus-Christ va revenir. Hein? Nous avons cette assurance. C'est une promesse. C'est ce qui fait que nous sommes chrétiens. C'est parce que nous savons que notre Seigneur règne et qu'il va revenir dans toute sa gloire. Sinon, tout ça ne sert à rien. Et c'est aussi au moyen de notre foi, de cette espérance, que Jésus-Christ fait naître et fait grandir notre foi chaque jour. Parce que lui seul, et personne d'autre sur terre n'est capable de tenir une promesse aussi extraordinaire. Qui est-ce qui peut vous offrir la vie éternelle par le pardon de vos péchés? Qui d'autre que Jésus-Christ? Et de la foi résulte la confiance. De la confiance résulte l'obéissance. De l'obéissance résulte l'attachement à Christ. Et de l'attachement à Christ résulte une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Amen. Et ce n'est pas simplement par nos propres forces ou par notre intelligence ou par notre sagesse que nous arriverons à cette vie-là, mais principalement par la foi et par la grâce de Dieu qui nous y conduit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué sur cette première partie, nous avons reparlé du message de l'Évangile, mais sous un angle très personnel, sur l'angle qui nous concerne chacun d'entre nous individuellement. Nous avons vu qu'il est important de réaliser que nous avons chacun d'entre nous individuellement une responsabilité personnelle d'accepter le message de l'Évangile, une responsabilité personnelle de renoncer à notre ancienne vie pour devenir des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Mais il y a peut-être un piège aussi qu'il faudrait éviter, ce serait de ne considérer que cette dimension verticale entre nous et Dieu. C'est-à-dire de ne prendre en considération uniquement que la relation privilégiée que nous avons avec notre Seigneur par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et je vais vous prendre un exemple qui est dans la Bible. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ disait en répondant à une question des pharisiens. C'est un passage que tout le monde connaît, mais il prend peut-être une autre couleur en le lisant dans ce contexte. Quand des pharisiens lui ont posé une question pour le piéger. Ça peut être la peine de lire, je vais vous le lire dans Matthieu 22 à partir du verset 36. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Le plus important, c'est vraiment notre relation privilégiée avec Dieu. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Jésus donne une importance équivalente au commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » par rapport au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et cela montre bien que la vie du chrétien ne se conçoit pas tout seul, isolé, dans un tête-à-tête exclusif avec Dieu, mais aussi de manière horizontale dans ses relations avec les personnes qui l'entourent. Et c'est une dimension qui est aussi importante. Et en particulier dans le passage que nous lisons ce matin, que nous étudions ce matin dans Tite 2 au verset 14, il est écrit « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne. » Jésus s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de sauver chacun d'entre nous. Mais la Bible nous explique aussi que le but ultime de Christ, c'est que tous les rachetés ensemble soient un seul et même peuple qui lui appartienne, qui appartienne à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte aussi tous les jours dans notre vie chrétienne. Nous sommes des citoyens d'un peuple qui appartient à Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes un peuple qui appartient à un grand Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, héritier d'Abraham par une promesse explicite que Dieu lui-même lui a faite. Et on le voit dans Genèse, au chapitre 17, la promesse de Dieu à Abraham, que je vais lire ces quelques versets, juste pour vraiment le appuyer que la parole nous le dit de façon explicite. Alors dans Genèse 17, à partir du verset 1, « Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » Je ne vous apprends rien en vous disant que dans l'Ancien Testament, le peuple élu, le peuple désigné comme le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Le peuple issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par la voie biologique. Mais déjà, comme on peut le voir, dès le départ, dans la promesse qui est faite à Abraham, on voit que Dieu a déjà en vue, depuis des milliers d'années, une multitude de peuples à travers la terre qui vont lui appartenir, qui seront les héritiers de la promesse faite à Abraham. Et pas simplement les descendants d'Abraham, de manière biologique. Et je pense aussi, et dans le même texte dans la suite, qu'on peut aussi interpréter dans ce sens le fait que Dieu a demandé à Abraham de circoncire tous les hommes dans sa maison. Pas simplement les personnes de sa lignée. Tous les hommes dans sa maison, y compris les esclaves qui étaient là et les étrangers. Vous voyez que le plan de Dieu s'accomplit d'une manière incroyable. Lui, il a une vision sur ce qui se passe déjà aujourd'hui, ce matin à Brunois, pendant qu'il parle à Abraham il y a des milliers d'années. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et quand on dit qu'on peut vraiment s'appuyer sur Dieu, c'est parce que Dieu a cette dimension-là qui nous dépasse. Mais que lui, il est parfait et ses plans s'accomplissent. Et dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, le Messie qui a entendu parler juif selon les promesses de Dieu qui ont été faites au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, on comprend que la nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ va finalement regrouper tous ces peuples, cette multitude de peuples héritiers d'Abraham, par la foi et non pas simplement par la chair, en un seul et même peuple unique qui appartient à Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens aussi qu'on peut interpréter ce texte, finalement. Jésus-Christ est notre sauveur en raison de son œuvre de rédemption, parce qu'il est mort sur la croix. Et ce sacrifice sur la croix, il est intervenu à une période précise de l'histoire. C'est un fait historique. Mais avant tout, comme ce texte nous dit ce matin, Jésus-Christ est notre grand Dieu, le Fils de Dieu, membre de la Trinité divine. Et nous sommes le peuple qui lui appartient par la foi et par la grâce. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu à qui nous rendons culte aujourd'hui, a fait de nous les héritiers de cette promesse faite à Abraham il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est vrai que quand on est face à ça, on peut avoir une certaine humilité. On peut se sentir tout petit quand nous considérons notre relation privilégiée que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Et quand, en particulier, nous nous posons des questions existentielles sur notre vie aujourd'hui. Sur tous les petits détails qui ne vont pas bien. Sur toutes les petites choses que nous vivons au quotidien et qui ne sont pas telles que nous aurons souhaité idéalement. C'est vrai, notre vie personnelle n'est pas parfaite. Loin de là. Et notre vie en communauté dans l'Église n'est pas non plus parfaite. Nous le savons tous. Nous en avons fait encore l'expérience ces jours derniers. Est-il possible que des personnes qui sont imparfaites dans leur vie personnelle soient capables de vivre en communauté de manière parfaite? Mais alors que faire? Quel est le moyen recommandé par la parole de Dieu pour vivre notre vie d'Église dans l'amour et dans le respect mutuel, et dans l'unité? C'est le choix de chacun d'entre nous ici ce matin. Et plus que de simplement le souhaiter, c'est quelque chose que nous voulons vivre de façon concrète. Alors, est-ce que c'est impossible? Si notre vie n'est pas parfaite, si nos relations les uns avec les autres ne sont pas parfaites, si notre Église n'est pas parfaite, il n'empêche que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu, lui, il est parfait. Ses plans sont parfaits et ils s'accomplissent. Et ces plans vont bien au-delà de notre vie personnelle aujourd'hui, ce matin à Brunois. Et aussi des quelques années que nous avons à vivre sur terre. Et on peut dire la même chose de la vie de notre Église. Cette Église appartient à Christ. Elle fait partie du corps de Christ à travers chacun d'entre nous. Et Christ, lui aussi, il est parfait en tout point. Dieu a une sagesse et une perspective qui nous dépassent. Il a été capable de promettre à Abraham que des milliers d'années plus tard, vous et moi dans cette salle, nous serions ses héritiers, dans la foi que Abraham a eue en Dieu. Nous faisons partie de cette promesse faite à Abraham qui s'est réalisée au travers de Jésus-Christ. Mais n'oublions pas, parce que quand on élève Abraham au rang de père de la foi, n'oublions pas qu'Abraham lui-même, non plus, il n'était pas parfait. Et pourtant, Dieu lui a fait des promesses merveilleuses. Dieu aussi, ce matin, à nous, il fait des promesses certaines. Il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. C'est un plan qui nous dépasse. C'est un plan dont le bénéfice pour chacun d'entre nous est conditionné à notre foi et à notre obéissance. Comme pour Abraham. La perfection de Dieu va s'exprimer au travers de notre foi et de notre obéissance, et non pas au travers de notre nature, au travers de notre caractère, au travers de nos pensées, qui, elles, sont souillées par le péché. Et l'illustration d'Aurélie tout à l'heure était tout à fait parlante. On a vu que le caractère du cochon, mais finalement, lui, il amenait toujours à faire ce qu'il ne fallait pas. Et ce n'est pas là sur nos caractères que nous allons nous appuyer. Mais Dieu, lui, il est capable d'accomplir des choses extraordinaires et parfaites. Et il nous demande pour cela d'être obéissants et de croire en lui. Et c'est lui qui les accomplit. Nous ne pouvons pas attendre ou exiger de notre frère ou de notre sœur qu'il soit parfait en tout point, et notamment dans les relations que nous avons avec lui. Et encore plus si chacun se préoccupe en priorité de ses intérêts personnels, de sa sensibilité personnelle, de son bien-être personnel. L'apôtre Pierre, tout comme Paul dans sa lettre à Tite, nous appelle aussi à mener une vie équilibrée. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment très, très édifiant par rapport à notre texte d'aujourd'hui, de voir comment Pierre finalement va aborder le même sujet et quelles sont les illustrations que lui va apporter. Et je pense qu'ils sont importantes pour nous ce matin. Et gardez bien ce passage que je vais lire, puisque je vais y revenir plusieurs fois. Il se trouve dans 1 Pierre au chapitre 4. À partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, comme on l'a vu dans Tite, et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. C'est sur ce modèle-là que Christ appelle son peuple à interagir les uns avec les autres. Et pour appuyer cela, je reviens rapidement dans le livre de Matthieu. Ce n'est pas la peine d'ouvrir votre Bible, je vais simplement vous lire deux versets. Au chapitre 5, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, là c'est Jésus qui parle, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. » Jésus nous dit « Aimez vos ennemis. » Priez pour ceux qui vous persécutent. À votre avis, qu'est-ce qu'il dirait à propos de nos obligations mutuelles entre frères et sœurs en Christ? Dans notre église locale, combien d'autant plus il va nous ordonner d'avoir de l'amour entre nous, quelles que soient les circonstances, puisqu'il est même demandé d'aimer ses ennemis. Et le même passage dans le livre de Luc, qui est le passage parallèle, qui parle exactement du même moment où, quand Jésus le dit, nous dit dans Luc 6, à partir du verset 35, « Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. » Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Mais en fait, je vais vous dire, on ne va même pas parler des ennemis. Parce que souvent, dans notre vie quotidienne, il se trouve que ce n'est pas forcément notre ennemi qui nous fait du mal. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais plutôt, les personnes que nous aimons, les personnes qui font partie de notre famille, les personnes qui sont du même sang, les personnes qui sont de la même église, des personnes qui sont proches de nous et que nous aimons. Alors, dans ce cas, est-ce que les prescriptions de Christ sont toujours valables? Pouvons-nous envisager de nous efforcer d'aimer et de pardonner à nos ennemis, tout en gardant rancune à ceux qui nous sont proches, dans notre propre famille, dans notre église locale, dans nos amis? Revenons au passage que je vous ai dit de conserver dans 1 Pierre au chapitre 4. Pour lire le verset 8, il est écrit, 1 Pierre 4, 8, « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. » Et vous avez vu que ça commence par « avant tout », ce qui montre que c'est une priorité dans notre vie d'enfants de Dieu, et non pas simplement un détail facultatif dont on pourrait se passer. Aimez-vous ardemment. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne qu'il faut s'efforcer, qu'il faut progresser, qu'il faut viser très haut pour arriver à se conformer à cette parole. L'ardeur, ça suppose de s'engager. Ça montre qu'il y a du travail en nous. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas naturel. Mais c'est le résultat d'une volonté, d'une envie d'obéir à notre Seigneur. Malgré la difficulté, malgré les obstacles. Et l'ardeur suppose aussi une grande intensité dans cet amour. Pas simplement une relation de politesse superficielle. Bonjour, comment ça va? Et puis on continue. Ardemment, entre frères et sœurs en Christ, ça suppose un sentiment fort qui nous lie, qui nous anime, qui nous porte, parce que la tâche n'est pas facile. Et que certains jours, elle paraît même vraiment, vraiment très difficile. Mais cet effort et cet engagement sont nécessaires pour le peuple qui appartient à Christ. Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés à l'image de l'amour de Christ pour nous. Mais vous allez me dire, oui, pardonner, c'est compliqué, hein? Et pardonner plusieurs fois, ça devient limite insurmontable. Un grand nombre de péchés sont... Il n'y a pas une limite du nombre de fois au-delà duquel il ne faut plus pardonner. Et un grand nombre, ça peut faire vraiment beaucoup pour chacun d'entre nous. Mais nous devons être conscients de cette exigence pour le peuple de Jésus-Christ. Prendre toute la mesure de cet amour ardent qui nous est demandé dans la parole vis-à-vis de tous, et en premier lieu vis-à-vis de ceux qui nous sont proches. Et ce n'est pas tout. Au verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Être toujours accueillant les uns pour les autres, sans nous plaindre constamment les uns des autres. Ne pas nous plaindre. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Ça, c'est quelque chose qui est totalement contraire à notre nature humaine. Moi, je ne sais pas si je peux arriver à passer un jour sans me plaindre. Et ça aussi, ça nous paraît insurmontable. Quand on veut être réaliste, quand on connaît notre caractère personnel. Et c'est vrai que le sentiment qu'on peut avoir en lisant cela, c'est de se dire, mais le Seigneur nous en demande trop. C'est beaucoup plus que ce que nous pouvons réaliser. Aimer, aimer encore, malgré les offenses, pardonner un grand nombre de fois, sans limite, ne pas tenir regard de cela, ne même pas se plaindre, oh, ça fait vraiment beaucoup. Mais la parole de Dieu ne dit pas autre chose. Alors comment trouver la force en nous-mêmes, si ce n'est dans la prière et dans l'action du Saint-Esprit? Ce que nous sommes bien incapables de réaliser par nous-mêmes n'est aucunement impossible à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est essentiel pour nous de nous remettre dans la perspective d'un peuple qui appartient à Jésus-Christ. Un peuple qui appartient à Dieu. Et si la parole nous appelle à mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, c'est parce qu'il voudrait que nous réalisions à quel point nous avons besoin de dépendre de lui. Non pas nous appuyer sur nous-mêmes. Parce qu'en nous appuyant sur nous-mêmes, jamais nous n'y arriverons. Jamais nous n'aurons assez d'amour et de patience sans faille. Le Seigneur nous appelle à recentrer le but de notre vie, le centre de notre vie sur lui, à dépendre de lui pour toute chose, à nous désolidariser de la pression du monde au profit de l'obéissance à Dieu. Et les bénéfices sont non seulement énormes pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre vie collective au sein de la famille de Dieu, au sein de notre Église, au sein du peuple qui appartient à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mener une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, afin d'être disponibles pour prier. Prier ardemment pour avoir l'amour qui pardonne un grand nombre de péchés. Prier pour ne pas se plaindre à tout bout de champ. Prier, ne pas se plaindre, mais être au contraire plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance de ce que Dieu a accompli. Si vous avez le sentiment que vous êtes complètement attaché au fait de se plaindre tout le temps, ben, le pendant de ça, c'est d'être reconnaissant de ce que Dieu fait pour nous, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il continue de faire. Et dans cette reconnaissance à Dieu, mais quelque part, on lui remet tout aussi. On lui dit, je sais que toi, tu vas y arriver. Je sais que toi, tu vas me transformer. Je sais que toi, avec toi, mais tu accompliras au travers de moi ce que tu veux. Et moi, je suis simplement reconnaissant de ce que tu fais. Et je voudrais le dire aussi, parce que c'est vrai, parce qu'on a parlé de notre imperfection. On s'est dit qu'entre nous, les frères et sœurs dans cette église, nous sommes imparfaits. Nous faisons beaucoup d'erreurs, des erreurs de comportement, des erreurs de jugement, des erreurs d'oubli, des erreurs d'inattention. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas que ça dans cette église. Il y a aussi tellement d'amour entre les frères et sœurs. Il y a tellement d'amour qui est partagé tous les jours, toutes les semaines. Je pense qu'il faut aussi regarder les choses qui sont positives et qui se passent. Pas simplement être complètement axé et complètement obnubilé par les problèmes qui se posent. Cet amour se manifeste dans notre vie d'église tous les jours. Et il y a tellement de conséquences positives dans notre vie. Jésus-Christ, notre Seigneur, a des promesses claires et certaines pour nous. Et dans le texte que nous avons lu ce matin, elles sont dites de cette manière. Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Ben oui, parfois on ne profite pas assez des promesses de Dieu dans notre vie quotidienne. Ou parfois on se dit que Dieu n'agit pas assez vite et on veut prendre les choses en main nous-mêmes. Vous connaissez le mauvais exemple d'Abraham qui avait la promesse d'avoir une descendance et qui s'est dit à un moment donné, j'ai beaucoup attendu, il ne se passe rien, il est allé chercher sa servante. C'est aussi ce qui se passe dans notre vie. On est pressé. On met Dieu au défi d'agir tout de suite. Et même s'il agit, on ne voit pas forcément ce qu'il est en train de faire. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'écarte du plan de Dieu. Mais comme on l'a vu, le ministère de Jésus-Christ ne s'arrête pas simplement au fait de nous sauver, ce qui est déjà extraordinaire. Il n'y a aucun autre cadeau aussi beau sur terre qui existe. Si Jésus-Christ nous sauve, c'est aussi dans le but de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir ses œuvres bonnes. Et l'accomplissement de ces œuvres bonnes, ce n'est pas simplement une exigence personnelle qu'on se donne, ce n'est pas simplement notre but à nous tout seuls. Mais c'est d'abord et surtout le but de Jésus-Christ lui-même pour son peuple. Il nous accompagne dans cet objectif. Et c'est même une promesse de sa part sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Notre responsabilité est de nous remettre au Seigneur en lui faisant vraiment confiance. Et c'est ça notre vrai combat au quotidien, dans la louange, dans la prière, et en croyant fermement qu'il est déjà en train d'accomplir toutes les promesses merveilleuses qu'il a pour nous, en dépit des circonstances présentes qui peuvent nous paraître négatives, à nos yeux humains, parce que nous, finalement, notre intelligence et notre vision, elle est limitée. Et je vais terminer là-dessus. C'est vrai, nous voulons que notre Église soit belle, qu'elle brille aux yeux de Dieu, qu'elle soit exemplaire aux yeux des hommes, qu'elle continue de croître spirituellement. Mais c'est aussi la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons déposer ce fardeau à ses pieds, avec humilité, c'est vrai, mais avec confiance aussi. L'édification et l'unité de notre Église passent aussi par l'amour que nous partageons les uns pour les autres. Et cet amour, c'est un vrai engagement collectif pour le peuple qui appartient à Christ. L'engagement de faire passer l'intérêt de mon frère et de ma sœur avant le mien. L'engagement de vouloir pardonner un grand nombre de fois. L'engagement d'être toujours accueillant pour mon frère ou ma sœur. L'engagement de ne pas se plaindre ou le moins souvent possible. C'est un vrai défi, un combat de tous les jours, mais c'est une lutte qui se passe à genoux, devant Dieu. Individuellement pour le laisser corriger notre caractère, mais aussi collectivement, dans le partage et l'amour pour permettre à Jésus-Christ de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Amen.